religions du monde. Véronique Guémard.
Bonjour à toutes et à tous. Nous partons pour la République démocratique du Congo, plus précisément dans l'est du pays, en proie à des conflits meurtriers depuis plus de 30 ans, qui ont fait plusieurs millions de morts et de déplacés, même s'il est difficile de donner des chiffres fiables. La situation dans l'est de la RDC ne cesse de se dégrader depuis la fin des années 90, notamment avec l'avancée de plusieurs dizaines de milices et des mouvements armés, dont le M23, accusé d'être soutenu par le Rwanda voisin, dans une vaste région convoitée pour ses ressources minières et agricoles, minée par les conflits ethniques et fonciers, et où l'État est quasiment absent. Comment continuer à vivre, à espérer, à résister et à croire dans ces conditions de violence? Comment les femmes qui sont exposées en particulier aux violences sexuelles arrivent-elles à se projeter dans un avenir pourtant incertain? Quel rôle de la religion, de la foi pour tenir dans ces conditions extrêmes? Eh bien, pour en parler, nous recevons en studio Marie des Anges Cavenet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes religieuse de la congrégation des Sœurs Servites de Marie et chercheuse associée au département de théologie pratique et pastorale des facultés Loyola à Paris, l'ancien Centre Sèvres, puisqu'il a changé de nom. Vous avez publié aux éditions Cartala un ouvrage issu de votre thèse intitulé « Femmes dans la guerre au Nord Kivu ». Résilience et foi chrétienne pour que la vie continue. Vous-même, vous êtes née à Butembo, au Nord Kivu, une région que vous n'avez jamais connue en paix. Vous êtes née dans un petit village?
Oui, je suis née dans un petit village Kiondo, c'est à une trentaine de kilomètres de Butembo. J'ai vécu mes 10 premières années dans ce petit village et je viens d'une famille de 9 enfants. Je suis la fille unique de mes parents. Et c'est dans ce contexte que j'ai passé mes 10 premières années. Je me rappelle de ces soirées avec mes copines où tout était en sécurité. On pouvait sortir le soir pour jouer dans la cour. Et nos parents nous laissaient jouer jusqu'à minuit. On profitait de la lumière de la lune dans ces villages qui n'avaient pas d'électricité. Et nos parents étaient en sécurité et nous-mêmes, on ne craignait rien. Jusqu'au moment où, à mes 11 ans, je suis allée dans la ville de Butembo pour poursuivre mes études. C'est là que j'ai entendu pour la première fois les crépitements des balles. Je ne savais pas ce que c'était. C'était un peu les débuts. Et à 94, c'était vraiment le basculement. Juste simultanément avec les génocides au Rwanda.
Et le génocide des Tutsis.
Des Tutsis, oui. C'est là que j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Entre la joie de vivre en ville et la nostalgie de la paix que j'ai connue dans mon village, j'étais un peu perplexe. Et c'est à 96, quand on a commencé à fuir la ville et aller se cacher dans la brousse, à passer des nuits dehors, que je me suis vraiment rendu compte qu'il y a un basculement de la situation. J'avais 14 ans, c'était l'âge où on découvre tout, on a la joie de vivre, de s'épanouir. J'aimais beaucoup mes études, puisque déjà une fille allait à l'école, pour moi c'était une grande chance dans ma famille. Mes parents tenaient à ce que j'étudie jusqu'au bout. Et ces interruptions de ma scolarité par des coups de feu me posaient la question sur mon avenir. Et à 98, c'était le grand choc quand j'ai perdu deux de mes cousins enterrés vivants au cours des incursions des Maïmaï où les militaires ont dû nous enfermer dans la maison pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours, ces 3 nuits, c'était l'horreur. Deux de mes cousins ont été enlevés. On leur a demandé d'aller aider à creuser des fosses communes. Et les survivants ont témoigné qu'eux, ils ont été mis dans ces fosses communes vivants et on aurait déversé sur eux les corps qui gisaient. Cela a été très, très déchirant pour moi aujourd'hui. C'était au mois d'avril et je n'oublierai jamais cela. Quand on nous a demandé de sortir, c'est là qu'on a appris la nouvelle. Et depuis ces années-là, jusqu'aujourd'hui, j'ai 44 ans, on ne connaît que ça. Et la situation ne fait qu'empirer avec les massacres systématiques.
et des massacres effectivement qui se poursuivent. Marie des Anges Cavenné, je voudrais vous faire écouter un petit extrait d'une interview réalisée par notre correspondante à Goma, Coralie Pierret, avec le directeur du Polé Institute, un groupe de réflexion sur la paix qui est basé à Goma. Il revenait justement sur les conséquences aussi du génocide des Tutsis et de Hutu modérés au Rwanda il y a 30 ans et le bouleversement du tissu communautaire congolais déjà très fragile qu'a engendré l'arrivée massive de réfugiés rwandais dans l'est de la RDC, un contexte qui a été utilisé par les luttes politiques locales. Écoutez Néné Morichaud.
Les Tutsis congolais voient les Hutus arriver et avec ce qui s'est passé au Rwanda, ils ont eu peur, bien évidemment. Et on a vu un déplacement géographique des tensions Hutu-Tutsi du Rwanda vers la RDC, en particulier vers la province du Nord Kivu. Et c'est à ces moments-là qu'on voit se développer progressivement des milices d'autodéfense locale. Il s'agissait d'une certaine organisation locale pour faire face à ces milices étrangères qui arrivaient. Ce n'était pas seulement les milices interahamouins qui après se sont appelés les FDLR que nous connaissons aujourd'hui, mais c'était aussi les milices ou le groupe armé rwandais qui est arrivé et qui est soutenu par les Rwandais. Avant c'était FDL et puis c'était les RCD et puis on a eu CNDP. Actuellement on a le M23. Et actuellement, tous les conflits que nous voyons localement et qui impliquent les différentes communautés, ça peut être des conflits de pouvoir, ça peut être des conflits fonciers qui sont très très nombreux, ça peut être des conflits identitaires. Tous ces trois types de conflits sont exacerbés par la présence des groupes armés.
Nous retrouvons notre correspondante à Goma dans l'est de la RDC, Coralie Pierret, bonjour.
Bonjour.
On a entendu à l'instant le chercheur Néné Morichaud que vous avez rencontré. Alors vous-même, Coralie, vous suivez sur place pour RFI l'actualité dans l'est de la RDC. On parle d'une situation de plus en plus tendue avec l'étau qui se resserre donc autour de Goma et les positions des rebelles du M23 qui se renforcent. Quelle évolution avez-vous remarqué, vous, depuis un an et quelles conséquences pour les populations civiles ?
Alors d'abord, l'une des évolutions notables, c'est celle qui concerne les groupes armés dont parlait Néné Morichaud dans l'extrait. Jusqu'à l'année dernière, ils n'étaient pas officiellement alliés à l'armée congolaise et même ils la combattaient la plupart du temps. Et puis, ces milices ont commencé à être appelées Wazalendo, qui veut dire patriote en Kiswahili, la langue régionale, et sont devenus officiellement les alliés de l'armée congolaise. Aujourd'hui, on leur distribue des armes, des munitions. Ces milices sont même en première ligne et parfois combattent à la place des forces régulières. Des affrontements donc contre les rebelles du M23 qui, eux, sont alliés à l'armée rwandaise. Or, ces miliciens ne sont pas formés, ce sont de simples civils. Certains seigneurs de guerre sont même connus pour leurs exactions passées, dont l'utilisation d'enfants soldats. Deuxième évolution majeure, les rebelles du M23, comme vous le disiez, se rapprochent et encerclent Goma. Les forces gouvernementales, elles, reculent et sont prises en étau. Et donc, l'insécurité due à la concentration d'hommes armés dans la ville augmente et menace les civils.
Alors Coralie, le pape François s'est rendu en République démocratique du Congo en 2023, on s'en souvient, avec un message de paix. Il portait donc un coup de projecteur sur l'est de la RDC, ce qui avait suscité beaucoup d'espoir. On se souvient qu'il ne s'était pas rendu à Goma alors que cette étape était prévue au départ. Un an après, cette parole forte du chef de l'Église catholique est restée vaine. Est-ce qu'on sent une sorte de défaitisme, de résignation, alors que la violence extrême touche les civils au quotidien ? À quoi se raccroche-t-il pour tenir ?
Oui, d'abord, il faut préciser que le lieu qui avait été prévu pour la messe du pape François est désormais dans la zone de contrôle du M23. Donc une anecdote qui montre bien que les rebelles continuent de gagner du terrain dans la province du Nord Kivu. Concernant le message de l'Église catholique, à l'occasion de la fête de Pâques, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Ambongo, a dénoncé l'insouciance des autorités face à la situation dans l'est du pays. Mais ce message très politique est finalement assez rare. Et dans l'est de la RDC, cette parole paraît lointaine et peu audible. Certes, l'ONG de l'Église Caritas assiste les déplacés dans les camps aux portes de Goma, mais n'a pas accès à certaines zones contrôlées par le M23. Et le conflit dans cette zone ne date pas d'hier, il dure depuis 30 ans avec des pics de violence. Et finalement, la population a presque appris à résister au choc constant qu'inflige cette guerre sans fin.
Merci beaucoup, Coralie Pierret, donc correspondante de RFI à Goma. Salut. Marie Desanges Cavenné, on vous retrouve en studio à RFI. Alors la situation à Goma que vient de décrire Coralie Piret n'est pas la même qu'à Butembo ou à Beni ou dans l'Ituri. Il y a d'autres groupes qui sévissent dans ces régions-là, d'autres soutiens étrangers, des conflits civils, fonciers, ethniques. Enfin, c'est très très compliqué hein, de comprendre exactement qui contrôle quoi et pourquoi. Ce qui rassemble, en revanche, entre le nord et le sud, dans cette partie est de la RDC, c'est finalement le sentiment d'abandon des populations. Est-ce qu'elles se sentent oubliées ?
Oui, effectivement, à l'est du Congo, il y a vraiment un sentiment d'abandon, puisque depuis 3 décennies, on ne connaît que la guerre, la violence, et on compte, paraît-il, environ 120 groupes armés qui sèment la terreur dans cette région, et tout tourne surtout autour du minerai, puisque c'est une région extrêmement riche. Les habitants ne vivent que de la culture, et aujourd'hui, ils ne peuvent plus accéder à leurs champs, puisqu'ils y sont massacrés. Et il y a même des incursions dans les maisons, les assaillants viennent jusque dans les villages et ils agissent à pleine journée. Et au vu et au su même des forces de la MONUSCO ou même de l'armée locale, et la population ne comprend pas. C'est un problème très complexe, c'est un problème au niveau local, national et international. La population essaie de survivre en s'accrochant à la vie. Il y a plusieurs déplacés de guerre qui affluent dans les villes, comme la ville de Butembo, qui accueillent plusieurs déplacés de guerre. J'ai eu l'occasion de les voir au mois de juillet, en 2023. Je suis allée dans 3 camps de réfugiés où les enfants, les femmes, les hommes, les personnes âgées sont vraiment abandonnés à eux-mêmes. Ils essayent de survivre en faisant la manche. C'est très, très compliqué.
On va revenir évidemment sur tout au long de cette émission sur les conditions de ces personnes qui sont en proie à ce conflit armé qui dure donc depuis plus de 30 ans. Marie Desanges Cavenné, je reviens à vous et à votre parcours dans cet ouvrage « Femmes dans la guerre au Nord Kivu ». Vous commencez en rappelant votre enfance à Butembo, vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure. Vous étiez la seule femme au milieu des hommes, donc fille unique dans une famille de 9 enfants. Et votre mère vous a confié, à l'âge de 10 ans, donc, un cousin où il y avait des filles et des garçons pour que vous grandissiez dans un environnement plus équilibré. Comment avez-vous vécu ce placement dans une autre famille pour qu'il y ait plus d'équilibre entre filles et garçons ?
Oui, j'avais ma place au niveau de relations avec mes parents, mais avec mes frères, je me sentais un peu étouffée et ma mère a senti que j'étais vraiment étouffée par cette présence masculine. Et par souci justement d'une croissance équilibrée, elle a dû m'amener chez mon cousin qui venait de se marier et qui avait dans sa maison d'autres filles et d'autres garçons de la famille, puisqu'en Afrique c'est fréquent qu'un couple prenne les enfants des oncles et des tantes qu'on vive ensemble. C'est vrai que j'ai vécu cela comme un arrachement, c'était un déchirement, mais en même temps pour moi c'était une occasion vraiment de profiter de cette situation-là positivement pour pouvoir accéder aux études dans une école très, très réputée chez les Sœurs Oblates de l'Assomption. C'était un déchirement, mais en même temps une chance.
Et c'est là, justement, chez les Sœurs, que vous avez eu cette envie de vous engager en tant que religieuse vous-même. Qu'est-ce qui vous a porté vers ce chemin-là ?
Alors déjà, je peux dire que depuis mon enfance, j'ai vu ma mère faire. C'était une femme très, très proche des gens, très ouverte, engagée dans un mouvement marial. Et moi aussi, je faisais partie de ces mouvements, un groupe de jeunes filles qui étaient au service des personnes en grande précarité dans les villages, les personnes abandonnées à elles-mêmes, surtout les personnes âgées. Et dans ce mouvement qu'on appelle « Vélite de Marie », on s'organisait entre copines pour aller au service de ces personnes abandonnées. Et cela aiguisait à moi vraiment ce goût du service, de la rencontre de l'autre. Et quand je suis allée à Boutembo, j'ai continué dans des mouvements d'action catholique où vraiment les services étaient au centre de la vie, au centre des relations. Et cela me procurait énormément de joie.
Et dans ce contexte aussi de guerre qui commençait, puisque vous l'évoquiez au début de cette émission, vous avez commencé à entendre ce crépitement des balles. Est-ce que ça participait de votre décision de vous engager dans la vie religieuse aussi?
Oui, évidemment, puisqu'avec la guerre, il y avait de plus en plus de précarité. Et je me rappelle, en 1990, trois sœurs françaises sont allées au Congo justement pour partager le charisme servite avec les Congolais. Et quand je les ai vues aussi être au service des plus petits, cela m'a vraiment confirmé dans ma vocation, dans mon désir de consacrer ma vie au service des plus petits. Et c'est à l'an 2000 que j'ai pris la décision d'entrer au couvent. C'est un grand moment pour moi.
Alors, toute cette vie que vous avez passée donc, en RDC et auprès de ces sœurs religieuses, servites, hein, les servites, vous êtes venue ensuite en France pour des études de théologie et vous avez fait votre thèse, c'est le livre que vous avez publié donc, aux éditions Cartala sur les femmes au Nord Kivu dans la guerre, 200 femmes donc, que vous avez rencontrées à Beni, Boutembo, à Goma, ainsi que le docteur Denis Mukwege que vous avez rencontré donc, dans sa clinique, chirurgien, donc, gynécologue et pasteur, l'homme qui répare les femmes, hein, victimes de violences et de mutilations sexuelles dans la guerre, prix Nobel de la paix en 2018, qui vous raconte aussi son expérience pastorale auprès de victimes de viols, des viols comme arme de guerre. Alors pourquoi vous êtes-vous intéressé particulièrement aux femmes de l'ethnie Nandé, qu'on appelle aussi Yira?
Alors moi-même, je viens de cette ethnie-là.
Au Nord Kivu,
donc. Au Nord Kivu, et vraiment, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer d'autres ethnies. C'est l'ethnie que je maîtrise davantage, puisque je viens de là. Et en plus, elle est quand même majoritaire sur le territoire du Nord Kivu. Déjà en 2011, quand je faisais mes études de philosophie, et au cours de 2 mois de stage, je suis allée travailler dans un centre de santé qui prend en charge les femmes victimes de violences sexuelles. J'ai pu me rendre compte, vraiment toucher du doigt, l'horreur qui se vivait. Puisque chez moi, le viol, c'est vraiment un acte horrible, même traditionnellement parlant, culturellement parlant. Dans ma tradition, il était interdit de faire du mal à une femme. Et quand j'ai touché du doigt la souffrance de ces victimes qui venaient dans la salle d'écoute où j'ai travaillé pendant mes 2 mois de stage, c'est là que je me suis rendu compte qu'il s'est passé des choses qu'on ignorait, puisque dans la plupart des cas, les femmes violées s'émurent dans les silences parce qu'elles sont culpabilisées. Elles peuvent même être bannies de la communauté, donc elles préfèrent se taire. C'est avec ces rencontres-là que je me suis intéressée davantage à la situation des femmes, même si, toute petite, je voyais que la situation de la femme était quand même différente de celle des hommes. Déjà, de par mon expérience, quand j'étais petite, j'étais appelée à faire les charges de la maison pendant que mes frères jouaient au foot. Toutes ces questions me trottaient la tête. Et quand j'ai été à la rencontre de ces femmes victimes, je me suis dit, ça vaut vraiment la peine de travailler avec elles et d'essayer de comprendre davantage leur force intérieure. Qu'est-ce qui les fait vivre dans tout ça?
Et c'est comme si quelque chose était complètement brisé aussi, puisque vous écrivez dans votre livre, « Jadis, les femmes étaient respectées, elles étaient culturellement reconnues comme des reines. Car dans l'imaginaire Yira, par exemple, les femmes sont perçues comme les complices de Dieu dans le don de la vie. »
Oui. En fait, dans ma tribu, le mot « famille » signifie littéralement « ce que donne le ventre, le sein, disons, d'une femme. Ce que donne la matrice d'une femme. » Donc la femme, elle est vraiment liée à la vie et elle partage cette prérogative avec Dieu, le Dieu de la vie. Puisque chez moi, la femme, en langue, on l'appelle « nya ». ça veut dire mère. Par exemple, je m'appelle Marie des Anges, ma mère, on l'appelle Nya des Anges, et Dieu, on l'appelle Nya Muhanga, mère de la création. Donc la femme partage le même préfixe, Nya, qui veut dire mère de la vie. C'est lui qui donne la vie. Et justement, le fait qu'on s'attaque à la femme par le viol, c'est une façon de briser la vie, de détruire la vie à la racine. Donc les seigneurs des guerres, on vise la femme, puisqu'en même temps, dans ma région, les femmes portent vraiment le poids de la maisonnée. C'est par elles que la maisonnée peut survivre. Et en s'attaquant aux femmes, ils sont sûrs de détruire vraiment les socles de la famille.
Alors, vous rappelez aussi que dans la culture Hira, le rapport homme-femme est primordial, un équilibre aujourd'hui donc fragilisé, cassé par ces guerres.
Oui, ce rapport est fragilisé par ces guerres, surtout, on a parlé déjà du viol, comme on l'a dit. Un homme, quand il voit sa femme être violée sous ses yeux, c'est la pire des hontes qu'on puisse vivre. Au niveau de la société, cet homme, il est détruit. La femme, elle est détruite dans son corps, peut-être dans son esprit aussi, mais l'homme, il est aussi détruit, puisque non seulement on va dire qu'il n'a rien fait pour la femme,
pour la défendre,
pour la protéger, et il va porter cette honte. Il y a des hommes qui considèrent que la femme, elle est du coup impure. Il y a une fissure, vraiment une brisure qui se crée dans la relation déjà matrimoniale, et même au niveau de la société.
Vous écoutez Religion du Monde sur RFI.
Alors sur place au Nord Kivu, par exemple, donc des collectifs travaillent à la prise en charge de ces femmes qui ont été détruites dans la guerre, pour les aider à refaire leur vie, à restaurer leur dignité. Parmi ces associations, donc DIFEGOU, la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance, engagée dans l'éducation civique, qui travaille aussi avec d'autres associations en charge, par exemple, de la santé mentale et physique. Marie des Anges Kavene, vous aviez rencontré Rose Karambou Twambeane, cofondatrice de DIFEGOU. J'ai pu la joindre donc par téléphone à Butembo. Elle raconte une histoire, l'histoire terrible d'une jeune fille dont elle s'est occupée avec d'autres associations partenaires. Cette jeune adolescente de 12 ans a été victime des ADF, un groupe armé djihadiste originaire d'Ouganda affilié à l'organisation État islamique qui sévit dans l'Ituri et dans le Nord Kivu, dans la région de Beni.
Une jeune fille de 12 ans, elle est kidnappée avec sa grande sœur jusqu'à la forêt et donc à ressort ici en territoire de Beni par les éléments de l'ADF. Arrivée en forêt, déjà à cet âge, l'ADF saute sur ses petites victimes. Pour l'ADF, ces jeunes filles qui sont encore vierges sont vraiment du bon proie pour les ADF. Une de ces petites filles que j'ai reçues, elle est allée en brousse au lac du Napé à l'âge de 12 ans. Elle est revenue à l'âge de 14 ans, déjà grosse, et sa grossesse était presque à terme parce qu'elle avait 7 mois. Et donc, elle est déjà mère. Elle a cet enfant, nous la suivons, elle habite un des quartiers de Butembo, mais elle est déjà malheureuse parce qu'elle est exploitée sexuellement déjà à cet âge-là. Elle a dit que c'est le calvaire qu'endurent toutes les jeunes filles qui vont en forêt. Ce que nous essayons de faire, c'est toujours l'accompagnement, mais souvent, ça nous fait aussi du mal de les écouter parce que certaines, même d'entre elles, ont été aussi manipulées pour tuer. Donc, là, en forêt, là, dans la brousse, on leur distribue aussi des armes. Et cette fillette dont j'ai fait allusion ici avec ses pères ont même participé aux tueries dans un des villages du territoire de Beni. Grosse, mais quand même, elle est encore manipulée pour tuer. Donc, ce sont des histoires douloureuses que nous partageons. Nous essayons de les accompagner parce que nous travaillons avec d'autres structures qui ont des psychologues et les autres documentent, d'autres essaient de faire la prise en charge sanitaire, mais ça ne suffit pas. Nous pensons que aussi ce qui va les soulager, parce que cette fille a perdu aussi tous les membres de sa famille par le massacre. Nous pensons que ce qui va les soulager, comme elle l'indique même dans les histoires documentées, c'est toujours cette reconnaissance-là. Et jour, nous espérons aussi à une justice transitionnelle, on pourrait peut-être que les influences, les négociations, les diplomaties pourront jouer. Et nous pensons à une justice qui pourra aussi les restaurer définitivement.
Alors, on entend Rose Karambou Touambéane dit espérer que la justice pourra faire la lumière et aider ces femmes victimes de viols à se reconstruire. Mais c'est surtout l'impunité qui règne. Qu'est-ce que vous avez constaté, vous, sur place aussi? Vous y retournez régulièrement, donc, en RDC?
Oui, j'y retourne tous les 2 ans ou tous les ans. Et c'est vrai que l'impunité est criante dans cette région. Et c'est ce qui fait mal aux victimes, puisque pour se reconstruire, il faut aussi que la justice soit faite.
Et dans votre livre sur les femmes dans la guerre au Nord-Kivu, donc vous rapportez aussi donc ces exactions terribles hein, subies par des femmes, comme celle que vient de raconter Rose Karambou Touambéane. Le viol comme arme de guerre, c'est vraiment quelque chose qui vous a particulièrement marqué?
Oui, j'étais vraiment marquée par cette réalité-là. Déjà, quand j'ai travaillé en 2011 dans le centre de santé qui prenait en charge les victimes du viol, et j'étais choquée de voir qu'il y avait même des enfants de 2 ans. En tout cas, quel que soit l'âge, c'est l'horreur. Et j'ai vu comment ce viol est destructeur. Et j'ai été aussi touchée par cette capacité de ces victimes de continuer à vivre, à survivre et à croire à l'avenir. Malgré l'horreur qu'elles avaient vécue, on sent qu'il y a ce désir de survie qui est plus fort que la mort. Et la plupart d'entre elles me disaient que c'est pour leurs enfants qu'elles les font.
Alors sur les 200 femmes que vous avez interrogées, Marie-Desanges Cavenet, pour votre livre, 197, donc presque toutes, vivent, vous disent en tout cas, vivre avec cette peur d'être violée. Donc oui. C'est quelque chose de central dans leur vie.
Oui, c'est très, très central, puisque les assaillants, quand ils arrivent, les femmes sont doublement victimes, en fait, victimes de ces viols et victimes de la guerre. Et les femmes ont très, très peur de cette situation. Comme elles se retrouvent dans la culpabilité, elles sont culpabilisées aussi. Il y a comme un mystère qui entoure la femme ou qui entoure les couples, qui est brisé, parce qu'une femme qui a été violée publiquement, que ce soit publiquement ou à cachette, en tout cas, on a touché à sa dignité. Et ça, c'est très déchirant. Ça crée vraiment de fissures dans la communauté et même dans la personne elle-même.
Et en tant que religieuse, vous-même, qu'est-ce que vous pouvez faire auprès de ces femmes?
En tout cas, avec l'expérience que j'ai vécue, je crois que ces femmes ont besoin déjà d'une une présence de bienveillance, un regard bienveillant, compatissant. Puisque ce qui leur fait mal, c'est justement ces sentiments de culpabilité quand on pense que c'est de leur faute. Je me souviens quand j'allais à leur rencontre, elles étaient heureuses et en même temps étonnées en disant « Ah, une religieuse parmi nous, ça fait vraiment du bien de vous voir. » En fait, elles étaient comme dans une admiration, en fait, le fait de voir qu'une femme peut choisir de ne pas se marier, peut avoir cette liberté-là. En fait, c'était surtout la question de la liberté dans le choix, puisqu'elles ont été victimes de la mainmise de ces hommes qui les violaient, qui les obligeaient vraiment
des mais actes d'horreur. Il y a aussi des religieuses qui ont été violées.
Oui. Justement, il y a aussi des religieuses qui ont été violées. Je n'ai pas eu l'occasion de les rencontrer face à face. Justement, quand j'ai parlé avec le docteur Denis Mukwege disait que le viol, en fait, l'objectif du viol, c'est de tuer le concept et tuer la personne au niveau de l'espace social, puisque une religieuse qui est appelée à donner sa vie à Dieu et à faire peut-être vœu de chasteté, ces assaillants, ils visent justement de briser cela, de briser les concepts de religieuse, de consécration, pour semer la terreur, puisqu'en plus, chez nous, dans le contexte vraiment de ma région, pendant la guerre, quand les populations voient que les religieuses, les prêtres sont encore à la paroisse et dans leur couvent, ils tiennent, les populations tiennent, elles disent voilà, tant que les prêtres, les religieuses sont encore dans leur couvent, on peut encore tenir, on ne va pas fuir. Donc c'est comme si on les assurait, notre présence les assurait. Mais quand elles voient que nous sommes soumis aux mêmes horreurs qu'eux, ils se disent, mais si on traite comme ça des personnes mises à part, qu'adviendra-t-il à nous autres?
Oui, donc si les religieuses, les prêtres
voilà.
sont attaqués aussi,
et aussi
à ce moment-là, ça voilà, ne protège plus la population qui s'en va,
voilà.
qui est obligée de fuir.
Voilà. Quand les prêtres célèbrent la messe, au moins ils savent qu'on voilà, peut aller à la messe, on s'accroche à Dieu. Mais quand ces gens qui sont censés nous transmettre l'espérance sont aussi obligés de s'enfuir, du coup, l'espérance, c'est comme si l'espérance est aussi brisée quelque part.
On écoute un extrait d'une chanson que vous avez choisie par le groupe Yera Nirembe qui signifie la paix, un groupe traditionnel initié par des prêtres assomptionnistes locaux de Butembo, composé d'hommes, de femmes, d'enfants qui dénoncent les violences dans l'est de la RDC qui appellent à la paix. Alors dans cette guerre qui dure donc dans l'est de la République démocratique du Congo, vous le rappelez, Paris des Anges Kavene, l'Église catholique congolaise tente de peser hein, pour faire avancer la paix, mais les voix ont du mal à se faire entendre dans la cacophonie des groupes armés et des intérêts de chacun. J'ai pu rencontrer lors de son passage à Paris Léonard Santedi, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa et recteur de l'université catholique de Kinshasa. Il a longtemps été le porte-parole de la CENCO, la conférence épiscopale du Congo. Il revient sur le poids historique de l'Église catholique en RDC et sur le rôle qu'elle pourrait jouer dans le contexte de la guerre dans l'est du pays auprès des populations.
L'Église est vraiment, comme on pourrait dire, engagée au plus épais de la condition humaine. À la veille de l'indépendance, le cardinal Malula, à l'époque Monseigneur Malula, avait dit « il faut une église congolaise dans un État congolais ». Et donc la conférence des évêques de la RDC, la CENCO, a toujours pris vraiment son rôle d'accompagnement du peuple, sa contribution pour la construction de la nation, comme faisant partie intégrante de sa mission d'évangélisation. Et là, donc, on retrouve cette église dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans le domaine de la justice et de la paix, sa contribution pour un état de droit. Cette église accompagne chaque jour des familles par son réseau de Caritas Développement, mais aussi par son réseau de justice et paix. Au niveau d'abord local, l'Église, je peux parler du diocèse de Goma, de Butembo-Beni, ou même de Bunia ou de Bukavu, dans le sud Kivu, ou Vira, mais aussi au niveau national, au niveau de la Conférence des évêques du Congo, et au niveau régional, au niveau de la Conférence des évêques de l'Afrique centrale, qui réunit le Congo, le Rwanda et le Burundi, faire un plaidoyer de paix au niveau des gouvernants, mais aussi faire entendre la voix au niveau de la communauté internationale.
Concrètement, vous-même, vous êtes recteur de l'Université catholique à Kinshasa. Vous avez des étudiants qui viennent d'un petit peu partout dans le pays. Ceux qui viennent de l'Est, de la République démocratique du Congo, est-ce qu'ils viennent vous voir? Est-ce qu'ils vous racontent aussi les difficultés auxquelles leurs familles sont confrontées dans ces moments de guerre sur leur territoire?
Parfois, les mots nous manquent quand nous rencontrons des jeunes qui viennent étudier et qui ont vécu ces horreurs. Il y a des valeurs que tout homme, toute femme, quels que soient les mobiles qui commandent son comportement, doit être incapable à profaner. Et parler de ces grandes valeurs, alors c'est parler du respect de l'humain, la logique financière, la logique de l'enrichissement qu'on voit là, de l'exploitation illicite des minéraux. Quel que soit cela, ça ne peut pas avoir le dessus sur la vie humaine qui devient comme rien. Et donc tout cela, ça nous interpelle comme éducateurs. Et alors, par exemple, pour nous, à l'Université catholique du Congo, à la suite de cela, nous avons donné une option pour l'université à l'heure de la promotion des valeurs, pour que ces jeunes gens qui constituent l'élite du pays, qui vont gouverner, puissent avoir une autre gouvernance.
Quel rôle l'Église catholique joue dans la tentative de résolution de ce conflit?
La mission de l'Église se situe à plusieurs niveaux. Au niveau d'abord de la population, les premières victimes, continuer à donner un message d'espérance, à ne pas lâcher prise, un message de la force de la vie, de la victoire de la vie sur la mort, qui va conduire à un message de paix et de réconciliation, à dire aux populations, n'entrez pas dans la haine, dans la vengeance. Un autre niveau, alors, c'est au niveau des acteurs politiques. Un message de plaidoyer pour une gouvernance autre, mais aussi pour que aujourd'hui, ce n'est plus le temps ni les lieux des discussions entre partis et tout cela, mais de prendre en main cette cause de la paix au niveau de la région. J'ai cité ces trois pays qui forment l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale, le Congo, la RDC, donc le Rwanda et le Burundi. Les évêques des trois régions se sont réunis, ils ont réuni les fidèles de ces trois pays pour célébrer la paix à Goma, mais aussi à Butare et au niveau même du CHEAM, de Conférence des évêques d'Afrique, aller dire un mot pour qu'on puisse sensibiliser, dire, mais ces populations qui souffrent sont en grande partie des populations chrétiennes. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ces populations travaillent aussi à la paix avec d'autres confessions religieuses, avec d'autres dialogues qui doivent amener vraiment à une cohabitation pacifique de ces populations et à une autre exploitation des richesses du Congo.
Il y a un peu plus d'un an, le pape François s'est rendu en République démocratique du Congo. Il n'avait pas été à Goma, mais il avait reçu des personnes victimes du conflit. Aujourd'hui, un an après, la situation s'est encore aggravée.
Ah oui, ce message fort du pape François résonne encore et... D'ailleurs, l'évêque d'Uvira, Monseigneur Sébastien Muyengo, vient encore de publier pour dire comment nous avons reçu ces messages. Ces messages résonnent. Retirez vos mains du Congo. Et pour nous, ces messages ne s'adressent pas simplement aux forces extérieures, mais à nous-mêmes. Parce que ces mains, c'est aussi des mains des nationaux qui sont là pour exploiter dans ces carrés miniers au détriment de vie. On ne pourra pas se lasser de dénoncer cette situation et puis bon, d'annoncer l'évangile de paix et de réconciliation.
Alors les femmes sont particulièrement touchées donc, dans ce conflit, hein, c'est ce que fait ressortir justement ce livre de Marie des Anges Kavene, Femmes dans la guerre au Nord Kivu. À quoi on se raccroche dans la guerre?
Alors je voudrais d'abord... Vous m'avez félicité, ma compatriote Marie des Anges Kavene, pour cet ouvrage qui est d'ailleurs un travail de thèse qui a pu rencontrer des femmes. Elle ne parle pas à partir des livres, à partir de bureaux. Elle a eu l'expérience de rencontrer à peu près 200 femmes, de parler et de dire que malgré tout, on s'accroche à un Dieu qui est vainqueur de la mort. Par l'expérience de la Pâque, justement, c'est le crucifié qui nous dit, eh bien, le dernier mot n'appartient pas à la mort, ni à la guerre, mais à la vie. Il faut la résistance devant ces horreurs, parce qu'elle a le courage de raconter des scènes vécues par ces femmes qui lui racontent. Alors, les appeler à être des témoins de la vie, de l'espérance, à se mettre debout, et à sensibiliser d'autres femmes ou d'autres hommes qui gouvernent et tout cela pour dire que plus jamais ça, plus jamais cela. Donc on s'accroche à la vie et on chante quand même le Dieu vainqueur de la vie, ce Dieu du Magnificat qui élève les humbles, fait descendre les puissants. On devient un homme ou une femme debout qui sème le message de la paix qui est possible malgré les horreurs vécues, les messages de la réconciliation et les messages de la victoire de la vie. Regardons en face ces massacres qui se passent dans la partie est du Congo et ne soyons pas seulement attentifs aux minerais, à des contrats à signer ou d'autres, mais regardons en face ce qui se passe là. C'est une interpellation pour la communauté internationale.
Merci beaucoup, Léonard Saint-Adi. Je rappelle que vous êtes donc le recteur de l'Université catholique à Kinshasa. Merci.
C'est moi qui vous remercie. I never grew up in my country. Always running from country to country. Though they be treating us like trash, you could never protest. For 30 years they be fighting us, but nobody is seeing us. You're crying for help.
On écoute un extrait d'une chanson de Félix Wazekwa sur la guerre et les pillages dans l'est de la RDC.
J'entends ces cris venus de l'Est, que le monde ignore. Les pleurs d'enfants qui perdent ce repère qu'on appelle maman. Ça ne date pas d'hier, sous les lumières les plaies se voient. Ce conflit qui traîne est plus âgé que moi. Les années se succèdent et aucune solution. Profit et chez silence, le prix des vies innocents. Terrible constat amer et notre déception. Que peut-on y faire, plus profonde est l'affliction. De toute façon Dieu nous regarde, faut qu'on garde espoir.
Nous sommes de retour en studio avec Marie des Anges Cavenet. Une réaction à ce que dit Léonard Santedi, notamment cet appel à la paix et puis cet appel à la résistance.
Oui, cet appel à la paix, à la résistance, c'est vraiment un appel d'actualité et c'est la réalité même des 200 femmes que j'ai rencontrées. Pour elles, la paix, c'est le message de l'Évangile, le message du soir de la résurrection. Jésus ressuscité, il dit à ses disciples, la paix soit avec vous. C'est le message de la victoire de la vie sur la mort. Ces femmes qui agissent sans pactiser avec la violence, en fait, elles disent, notre lutte ne doit pas s'inscrire dans la violence. Elles essayent de ramer, en tout cas, elles travaillent tous les jours en ramant en contre-courant de la violence. Elle me disait, le fait de travailler dur chaque jour pour trouver à manger à mes enfants, c'est ma manière de contribuer à la paix. Puisqu'elles prennent conscience qu'il y a des situations qui les dépassent et elles essayent vraiment d'agir à leur niveau. Mmh. Nourrir les enfants, travailler dur pour trouver la scolarité, elles nous montrent que la foi, en fait, elle se vit dans l'ordinaire de nos quotidiens. Faire bien ce qu'on a à faire, ne pas pactiser avec la violence, essayer de faire que la vie continue dans l'ordinaire de nos existences.
Alors écoutez ce que Rose Karambou-Touambéane explique, elle, sur ce qui l'aide, elle, à tenir et à résister.
Ce qui fait que je résiste, c'est cet enseignement que je reçois chaque jour, parce que moi-même, fidèle et chrétienne qui bénéficie des enseignements, et c'est ce qui me rend même forte, c'est cette énergie que je reçois des enseignements, que j'essaie de transmettre aux autres, que j'essaie de partager aux autres. Et aujourd'hui, lorsque nous comprenons que Dieu, en nous créant, a voulu que nous naissions Congolais ou Congolaises, mais vivant dans cette entité, il nous a aussi donné la responsabilité de protéger la partie qu'il nous a donnée. C'est pourquoi nous sommes là. Cette partie, elle est belle, elle est riche, le sol est riche, et nous savons que c'est aussi notre devoir de la protéger parce que Dieu nous l'a donnée, tout en nous défendant quand même à partir des différentes conscientisations. Et cette façon pour nous de résister, c'est une grande défense pour nous et c'est un grand message pour l'ennemi.
Marie des Anges Cavenet, on lit aussi dans votre livre les propos du docteur Denis Mukwege, celui qu'on surnomme l'homme qui répare les femmes. Vous l'avez donc rencontré en 2021. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette rencontre ?
Alors, c'est la simplicité et la vérité de cet homme. Déjà, le fait de voir un homme investi au service des femmes, cela m'a particulièrement marqué, alors que je venais d'un contexte où les hommes étaient les premiers servis. Mais là, il passe ses journées vraiment au service des victimes. Et il ne s'occupe pas seulement de réparer le physique, mais il y a aussi un suivi psychologique, spirituel. C'est vraiment une prise à charge holistique.
Alors, on entendait Rose Karambou-Touambéane dire « Bon, ben voilà, moi aussi j'ai la foi et je me raccroche à cette foi », elle-même en tant que catholique. Oui. Denis Mukwege, lui, il est pasteur évangélique. Oui. Voilà, il y a aussi d'autres églises présentes dans la région, des églises de réveil, les religions traditionnelles, oui, l'animisme, enfin ce qu'on appelle l'animisme. Oui. Finalement, qu'est-ce qu'il vous raconte de tout ça aussi, le docteur Denis Mukwege?
En tout cas, à le rencontrant, j'ai trouvé que c'est un homme très ouvert. Même les femmes aussi que j'ai rencontrées, il y avait cette grande ouverture, en fait, qui met la rencontre de l'autre au centre. En fait, les barrières entre, voilà, je suis de telle tribu ou de telle religion, sont vraiment dépassées. Puisque là, c'est vraiment l'humain qui est au centre, le bien-être qui est au centre. Et toutes ces femmes que j'ai rencontrées qui travaillent en association, elles sont chrétiennes, mais j'étais surprise de voir qu'il y avait cette diversité religieuse. Et c'était très, très touchant. de voir que c'est d'abord l'ouverture, l'être humain qui est au centre même de toutes ces actions. C'est la construction du « nous » qui est au centre, et « nous » vital, puisque en fait, construire ces « nous », c'est ramener à contre-courant de la guerre, puisque l'objectif de la guerre, c'est justement de briser, de casser les liens, de tout détruire. Et ces médecins, justement, il est investi dans la construction, la reconstruction des liens, déjà personnels et interpersonnels.
La reconstruction du corps, de la femme
et des relations, aussi
au sein de la société.
Voilà.
Et justement, pour conclure cette émission, Marie Desanges Cavenet, je reviens sur le titre de cet ouvrage que vous avez publié, donc qui est votre thèse, « Femmes dans la guerre au Nord-Kivu, résilience et foi chrétienne pour que la vie continue oui. ». Cette phrase « pour que la vie continue », c'est vraiment au centre de votre réflexion et de ce qui tient aussi les femmes et les hommes donc, dans cet environnement de guerre, de destruction.
Exactement. Je tenais vraiment à ce que cette phrase figure dans le titre de mon livre, puisque je l'ai prise des interventions même des femmes que j'ai rencontrées. C'était une expression qui revenait à chaque fois. Des femmes qui disaient je lutte, je travaille dur pour mes enfants, pour que la vie continue. En fait, comme si l'objectif de ces femmes, c'était d'abord de sauver la vie. Leur première mission est de sauver la vie dans toutes ses dimensions. Et de faire que cette vie continue. La guerre n'a pas le droit d'arrêter la vie. La vie a pour vocation de continuer. La vie a pour vocation d'exister. Et aucune puissance ne pourra arrêter la vie. Et j'ai trouvé que c'était un message très très fort qui était à contraste avec la réalité que ces femmes vivaient. Et c'était l'expression même de leur vie. Au sein de cette guerre-là, au sein de ces chaos, il y a la force de la vie que nulle puissance ne peut arrêter.
Merci beaucoup Marie Desanges Cavenet de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission pour mettre un coup de projecteur sur la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, un territoire immense où les populations civiles donc payent le prix fort. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui est votre thèse, donc « Femmes dans la guerre au Nord Kivu » aux éditions Cartala. Et on termine avec ce chant « Gloria » en Lingala. La vie est plus forte que la mort, vous disiez ?
Oui, en fait, c'est les Gloria, les chants, les chants d'action de grâce, au chant de la gloire de Dieu. C'est justement une façon d'exprimer que la vie sera toujours la plus forte. L'amour l'emportera toujours sur la haine, l'espérance sur le désespoir. Et c'est dans cette espérance qu'on peut chanter la gloire de Dieu.
Merci beaucoup Marie Desanges Cavenet.
Je vous en prie, merci à vous Véronique.
Cette émission a été réalisée par Ludivine Amado. Vous pouvez la réécouter sur l'appli Pure Radio, X et Facebook à la page Religion du Monde. À la semaine prochaine et tout de suite, le journal sur RFI.